talmudique. L'année radiophonique suit le rythme de l'année scolaire et de ses vacances. Cela permet de voir d'autres horizons et de se ressourcer. L'année précédente et cette année, nous avons respectivement abordé les questions de l'identité et celles du tissage des histoires. Comment l'histoire juive se tisse avec la grande histoire? Les éléments récurrents qui sont apparus sont, entre autres, les questions de l'altérité, de la différence, du lien complexe du juif aux nations et des nations envers les juifs. Les questions éternelles du peuple élu, jamais vraiment étudiées ni compris, et la question de l'antisémitisme. Si l'homme est fondamentalement un être de lien et de relation avec les autres, comment vivre ces altérités qui à la fois fascinent mais aussi inquiètent? Ah, l'inquiétante étrangeté de l'autre! Comment la dépasser et ne pas sombrer dans une forme de rejet et de violence, qu'elle soit en acte, en parole ou même simplement en pensée, informulée? Comment nouer des liens avec le très proche, qui est aussi le très lointain? Faut-il essayer de lui ressembler ou peut-être s'agit-il plutôt d'assumer de manière féconde les différences? Je pense à ce texte du Talmud qui enseigne que le grand Sanhédrin devait avoir 71 juges. 71, c'est-à-dire 70 plus 1, c'est-à-dire les 70 nations qui représentent les autres peuples et Israël. Manifestant, comme dit Lévinas, que pour le juif, au plus intime de son fort intérieur, il existe une propension au dehors, exigence remarquable d'une entrée en rapport avec toutes les nations, avec toutes les familles de l'humain. Il n'existe pas d'identité intégrale judéo-juive, mais une identité toujours ouverte sur une autre identité, le même et l'autre. L'autre, c'est-à-dire dans sa différence. Ou pour le dire avec Lévi-Strauss, il n'y a de culture que de coalition entre les cultures. Mais si la philosophie, la psychologie, la théologie, l'histoire et la sociologie construisent et proposent des hypothèses et des théories sur les identités et sur les questions de la relation, c'est peut-être au roman que revient le privilège d'en être le laboratoire le plus sophistiqué. Par sa voix singulière, le roman interroge sans fin le mystère de ces questions, sans d'ailleurs donner nécessairement des réponses. Il nous invite à réfléchir non sur des concepts, qui risqueraient de se transformer rapidement en idéologie, mais sur des personnages toujours singuliers. Le roman creuse ces questions et permet justement, par ses histoires singulières, de ne pas tomber dans le piège d'une pensée abstraite et totalisante. Le roman exerce sa vocation en un tzimtzum, en un retrait de la totalité, pour explorer l'infini des expériences humaines, pour laisser une place à l'imaginaire. Anne Brochet, bonjour.
Bonjour.
Anne Brochet, tout le monde connaît l'actrice de Masque, de Cyrano de Bergerac, de Tous les matins du monde, ou plus récemment du Temps des porte-plumes, du Hérisson, ou encore Arrête ou je continue, pour ne citer que quelques titres de votre filmographie. Mais c'est la romancière que j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui. C'est votre cinquième roman, intitulé Le grain amer, qui précisément met en scène nombre de questions que je viens d'évoquer. Deux parties, à la fois très distinctes et complètement reliées entre elles, racontent l'histoire, entre autobiographie et fiction, d'une petite fille puis d'une jeune femme. Un voyage à travers les souvenirs d'enfance, d'un petit village de province contaminé par le silence d'une histoire familiale qui s'enracine dans la Seconde Guerre mondiale de la France occupée et à travers une démarche de conversion au judaïsme dans une école à Jérusalem. Deux livres en un, qui pourraient se lire séparément, mais qui prennent toute leur saveur en les lisant l'un après l'autre, quel que soit par lequel on commence. Qu'est-ce qui vous a amené, Anne Brochet, à intégrer dans votre roman le juif comme figure de l'autre et le désir de conversion au judaïsme comme moteur de l'intrigue? Pourquoi cette construction romanesque qui me semble très importante?
Ok. La première fois, c'était il y a 5-6 ans. Non, en 2008, donc c'était il y a plus longtemps que ça. Je marche dans la rue et je vois la silhouette d'un homme orthodoxe qui marchait très élégamment, qui portait très très bien le chapeau. Et je me suis dit, ça c'est un esthétisme très inspirant pour un film ou pour un roman. Et j'aimerais bien trouver une histoire d'une femme fascinée par la silhouette d'un homme dans la rue. Donc ça c'était ma première impression. Ensuite, la deuxième impression que j'ai eue, parce qu'on parle d'impression.
Oui.
Hein, on parle d'impression. Donc la deuxième impression que j'ai eue, c'était à Jérusalem, toujours la même année. Non, La silhouette de l'homme, c'est 2009. Le voyage à Jérusalem, c'est 2008, mon premier voyage. Et je suis sur le Kotel et je vois, je regarde surtout les hommes parce que, voilà.
Le Kotel voulait dire le mur
des lamentations. Et je regarde les hommes passer sous mes yeux et je pense immédiatement à vouloir me déguiser en homme pour aller avec eux. Parce que comme il y a pas de place pour les femmes ne sont pas admises, raison de plus pour avoir absolument envie d'y être, parce que plus on me dit non et plus j'ai envie d'y aller. Donc ça c'est ma deuxième impression. La troisième, c'est de m'être souvenue de Yentl. D'abord Barbara Streisand, enfin le Yentl, la comédie musicale et le livre que j'ai lu beaucoup de fois. La quatrième impression.
Rappeler aux auditeurs que dans ce livre et dans ce film, Yentl est une jeune femme qui aspire profondément à étudier à la yeshiva. Elle a commencé avec son père. Et comme l'étude est réservée aux hommes, elle décide de se déguiser en homme pour aller à la yeshiva. Et ensuite, toute l'histoire va se nouer à partir de là.
Voilà. Voilà. Et l'autre impression, qui serait pas forcément la dernière, c'est donc j'avais rassemblé comme ça, j'avais ces idées, mais bon, sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. Et l'élément déclencheur, juste avant l'élément vraiment déclencheur, c'est le film Summertime de David Lean avec Catherine Hepburn. Qui arrive, c'est une femme qui arrive à Venise, qui doit avoir 55 ans, qui ne croit plus en rien. Elle croit tellement plus en rien qu'elle croit en tout. Elle a sur son visage quelque chose que j'ai jamais vu. Et il est tellement stupéfiant, ce visage, que quand j'ai vu le film, j'ai dit « Ah ça y est, j'ai trouvé mon personnage ». Et à partir du moment où j'ai trouvé le visage de mon personnage, enfin son expression de désespoir, plein d'espoir, j'ai retracé tout en arrière jusqu'à retourner à cette envie que j'avais eue de raconter une femme qui suit un homme à la silhouette orthodoxe dans une rue vide et sombre.
Et je vois très bien le personnage dans Summertime. Dans Summertime, il y a cette rencontre sur la place à Venise et c'est tout un jeu de regards. Elle est en train de filmer, lui regarde qu'elle est en train de filmer, il regarde aussi son pied. D'ailleurs, c'est très très intéressant parce que ça fait une référence à un verset du Cantique des Cantiques. Et dans votre roman, Anne Brochet, il va être question d'un, je dirais presque le regard est un des personnages centrales. Les gens se regardent, les gens s'épient, et en même temps, il y a dès le début de cette première partie qui est plus autobiographique, l'impossibilité justement de voir et de regarder parce que un mur sépare le domaine de la jeune fille, de la petite fille, et celui de ses voisins.
Oui. C'est des regards de biais, en fait. C'est pas forcément qui s'épie. C'est des regards de biais. Avec une base énorme d'insécurité d'eux-mêmes. C'est-à-dire que l'enfant qui épie le mur, c'est une enfant qui comprend pas grand-chose à ce qui se passe et qui est fragile. Et je pense que les regards de biais, de toute façon, ce ne sont que des regards fragiles sur soi-même. Et la femme, qui n'est pas forcément la même, mais donc la femme de la deuxième partie, qui s'appelle Sylvia, oui, elle a le regard de biais, mais elle est un petit peu comme le personnage dans Summertime, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement fragile, elle doute d'elle, elle doute de sa féminité, elle ne croit plus en l'amour et en même temps, elle ne veut que y croire. Et elle est paranoïaque quand même, elle a vraiment une fragilité quasi maladive qu'a pas Catherine Hepburn dans le personnage, mais presque. Elle pense que tout le monde se... Elle essaie de croire encore en la vie, mais elle y croit quand même plus beaucoup.
Alors, l'antisémitisme de, que l'on sent poindre comme question dans, dans votre livre vient d'une histoire plus personnelle dans, dans ce roman. C'est, je pense à, cette, à ce grand-père dont le personnage de la petite fille dit à la fin de la première partie « Mon grand-père se remet d'avoir été pétiniste malgré lui » ou alors « Il a déjà tourné la page » ou alors « Il pense que ce qu'il a fait était juste, la guerre est finie, il va pouvoir s'occuper de son moulin » et de sa farine. Votre roman, Le grain amer, Anne Brochet, dont on peut peut-être comprendre ici toute la portée du titre, n'est-il pas la mise en scène de tous ces « ou alors » possibles, non pas pour condamner, ni pour excuser, mais pour ne pas tomber dans le piège de l'explication rapide et facile, qui est une injure à la complexité de toute identité. Et je me suis dit, injure dont l'antisémitisme serait le paradigme, et dès lors, la seconde partie de votre roman n'est-elle pas le déploiement de cette complexité en faisant apparaître d'autres personnages que sont le désir et son renoncement ? Je suis tenté de dire ou alors le désir et son exaltation, l'embrasement des sens et son impossibilité, les regards et leurs multiples variations, et d'en parler, l'enfance et le poids de ses souvenirs, le nom et ses destins, l'attirance pour l'autre et l'angoisse qu'il provoque, Anne Brochet.
Alors, vous voulez que je réponde à quoi?
C'est-à-dire que dans, dans la construction de votre livre, dans cette première partie autobiographique, vous nous faites comprendre que cette petite fille est confrontée à la complexité de l'antisémitisme dans ce moment de la France compliquée, la France occupée. Un grand-père qui va prendre à un certain moment la place du maire qui a dû partir parce qu'il était juif. Et au lieu de justement de juger, au lieu de... Vous écrivez cette deuxième partie qui est complètement romanesque parce que le roman explore la complexité des choses et nous rappelle que l'antisémitisme, justement, c'est le fruit de la facilité, de la rapidité, que si on veut sortir de cette maladie de l'antisémitisme...
Il faut développer.
Voilà.
Oui.
Il faut développer et il faut surtout peut-être l'aide de la fiction du roman parce que le roman creuse, développe. C'est ça ma question.
Oui. Ah ben non, moi je réponds par une affirmation.
Oui.
Mais oui, il faut développer. Il faut développer. Qu'est-ce que je peux raconter? Alors là, ça y est, j'avais un. Pendant que vous parlez, parce que c'est des sujets tellement. Moi, je. Voilà, j'ai mis un livre pour parler de ça. Et je me suis rendu compte quand j'étais... Je ne veux pas parler de mon grand-père, parce que mon grand-père, il n'est pas là. Je parlais de moi. Et je fais dans la première partie des suppositions. J'essaie de faire plein de suppositions. Et voilà. Et je vais à Los Angeles souvent en ce moment. Et j'ai remarqué que physiquement, dans des quartiers juifs que je fréquente pour des raisons différentes, je n'ai pas physiquement d'angoisse. Donc ça veut dire que je véhicule une angoisse quasi physique qui est née de ma condition de française, qui est née en 1966 et qui a appris les choses et qui en est resté à l'incompréhension. Mais c'est pas... Donc c'est l'incompréhension de comment l'humain peut aller dans cette violence-là, qui a même renoncé à croire en Dieu alors qu'elle était une jeune fille extrêmement amoureuse de Dieu et qui, d'un seul coup, est devenue extrêmement réservée sur... l'autre, l'humain dans ses capacités et au merveilleux et à l'atroce. Donc, et ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, je pense que je ne réponds pas forcément à votre question, mais en tout cas, j'écris en tant que femme née en 1966. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a 4 jours, j'ai rencontré une dame qui a mon âge et elle m'a dit, moi j'ai appris la Shoah, c'est-à-dire j'ai cru qu'elle parlait de moi. J'ai appris la Shoah en regardant au dossier de l'écran Holocaust avec Meryl Streep. Et j'avais l'impression que j'avais, voilà, qu'on avait vécu la même soirée, exactement la même.
Vous voulez dire que le, que ce que vous appellerez une expérience typiquement française, oui, c'est qu'il y a eu un tel silence sur les choses qu'on a eu besoin de ces films et des dossiers de l'écran en particulier,
oui,
pour avec Elie Wiesel, moi je me souviens aussi, pour apprendre tout cela, parce que ça faisait pas partie du paysage culturel. Il y a eu ce silence, cet effacement, et que aux États-Unis vous ressentez pas cette chose-là parce que c'est beaucoup plus ancré dans la culture américaine. Et ça vous provoque,
oui,
moins
d'angoisse. C'est pas tabou.
Ouais, c'est pas tabou, ça vous provoque moins d'angoisse. Vous voudriez dire qu'il y a une sorte d'antisémitisme à la française?
Je sais pas s'il y a une sorte d'antisémitisme à la française. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous avons appris, on l'a appris quand les choses ont commencé à être dites. Et
oui, mais ça, c'est pas...
C'était dit par la... Enfin, moi, je prends juste mon exemple, hein, par la, à la télévision. C'est,
oui,
la télévision qui m'a appris.
Oui.
Et je n'en veux pas à mes parents, parce que mes parents, ils font partie de cette génération où on ne parlait plus de ça. On n'en parlait pas parce que c'était peut-être quasi impossible.
Mais en même temps, les gens qui sont revenus, oui, n'en parlaient pas non plus parce que c'était tellement incroyable qu'ils savaient que s'ils en parlaient, on allait les prendre pour les fous. Donc il y a eu un moment extraordinairement long de latence silencieuse pour que à la fois les romans, à la fois l'art, à la fois les témoignages puissent faire en sorte que nous entendions quelque chose de tout cela. Ce passage est tiré de The Wall de Roger Waters, un des musiciens de Pink Floyd. Tout cela nous conduit directement à l'un des autres personnages de votre roman. On en a déjà un petit peu parlé. Ce personnage, c'est le mur. Le mur qui sépare la petite fille de ses voisins, le mur qui sépare les juifs des non-juifs, les murs qui séparent le maître de ses élèves, les élèves entre eux, le mur qui sépare les hommes et les femmes, vous en avez parlé, les fous et les gens normaux, et le mur des murs, celui des lamentations, qui palpite comme un cœur, nouant l'intrigue en de multiples relations complexes. Et comme dit Jean Tardieu, étant donné un mur, que se passe-t-il derrière? Et un mur qui est à la fois le lieu du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, aussi discret soit-il, un mur poreux, qui à la fois sépare et unit, un mur par lequel l'amour épie l'amour, comme dans ce verset du Cantique des Cantiques que vous citez dans la dernière page de votre roman. Alors je cite cette... Vous écrivez « La voix de mon amant, le voici, il vient, il bondit sur les monts, il saute sur les collines, il ressemble mon amant à la gazelle ou au fan des chevreuils, le voici, il se dresse derrière notre mur, il guette aux fenêtres, il épie au treillage, il répond mon amant et me dit « Lève-toi, va vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même. » Alors par cette citation, vous construisez un appel au lecteur parce que de manière très très étrange... Ça, je viens de lire la citation de la traduction de Chouraki dans la Bible de Chouraki, mais dans votre roman, les deux lignes « Le voici, il se dresse derrière notre mur, il guette aux fenêtres et il épie au treillage » n'apparaît pas.
Non, parce que je ne l'ai pas vu. Mais ça aurait été trop. Donc tant mieux.
Oui.
Oui, non, ça aurait été trop.
Moi, j'ai l'impression qu'avec cette citation du mur des cantiques que vous avez fait disparaître, alors peut-être inconsciemment...
Ça aurait été trop d'émotions.
Oui.
C'est pas... Alors d'abord, non, peut-être que les lecteurs auraient dit « Non, mais là, ça va, c'est trop, là. Elle arrête avec ses métaphores de mur. » Et en même temps, c'est comme si quelque chose en moi m'avait protégée pour éviter d'un seul coup de ce pas en... Oui.
Moi, j'ai mis comme si, de manière très ludique et subtile, le mur est tombé, puisqu'il disparaît.
Oui, oui.
C'est peut-être un geste, votre œil inconsciemment a fait disparaître le mur pour dire que le roman, in fine, a réussi, parce que c'est un roman, à faire tomber le mur, ses angoisses.
J'aime beaucoup cette explication. Donc, c'est. J'ai plus vu le mot.
Oui.
Voilà.
Voilà, vous ne l'avez pas vu.
Ouais.
Et dans les remerciements. Vous écrivez « Merci à toutes les personnes, et vous les nommez, qui m'ont aidé à accomplir ce livre.
Oui. »
Le terme est fort, il a un parfum hébraïque. En hébreu, on dit « accomplir les commandements, le kayem et tamitsot ». 613 commandements, dont le dernier, l'ultime, c'est d'écrire un livre. Je ne sais pas si vous le savez, mais
non.
Il y a 613 commandements. C'est l'obligation pour chaque femme et chaque homme d'écrire un livre, son propre livre. Anne Brochet, qu'est-ce que vous avez accompli avec ce roman? Quelle mitzvah, si je pourrais dire? Ou d'un autre registre, quelle catharsis ce livre a-t-il accompli?
Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je dirais, de façon très très rapide, la fin d'un fantasme. Je pense qu'il y a deux fantasmes dans la vie. Il y a des fantasmes très productifs et des fantasmes négatifs, même, qui peuvent être mortifères. Donc, c'est en tout cas la fin de l'un, à deviner lequel. Je m'appelle Anne Brochet. Depuis mon enfance, vivre en me nommant Anne Brochet n'a pas été simple. Et cela reste compliqué. Je n'accepte pas mon patronyme. Je me sens étrangère à mon identité civique. Comme si je ne me l'étais toujours pas appropriée, cette nomination imposée à ma naissance. Mon nom, c'est Brochet comme le poisson.
Alors Anne Brochet...
J'ai un vrai problème.
Anne Brochet, j'ai adoré ce début de film. C'est votre film qui s'appelle Brochet comme le poisson. Ça décrit cette question de votre confrontation au nom. Et c'est vraiment l'un des passages les plus importants de votre roman. Et qui apparaît, c'est la mise en scène d'une leçon de l'Ulpan, cette classe d'initiation au judaïsme qui a lieu à Jérusalem. Et le jeune maître, qui s'appelle Franck, propose de commencer l'étude par la découverte du sens que les prénoms de chacun peuvent avoir si on les entend en hébreu. Ainsi, Odette devient splendeur majestueuse, reconnaissance et remerciement. Coralie devient mon événement, il m'arrive quelque chose. Chantal devient le tumulte de la rosée. Et même le maître Franck dit de lui qu'il est Pérec, chapitre et brisure. Seul le nom de l'héroïne résiste. Sylvia reste d'abord Sylvia, sans interprétation, sans hébraïsation possible. Et la scène est d'autant plus forte que l'on se trouve à l'exact milieu du livre, en nombre de pages, nous rappelant cet enseignement des maîtres du Talmud, que le milieu du texte de la Torah est la répétition des mots d'arroche d'arrache, c'est-à-dire interpréter et encore interpréter, rechercher, enquêter, demander sans fin. Le milieu d'un texte en est ainsi la tonique qui donne la tonalité, comme disent les musiciens, milieu sur lequel il faut passer du temps et chercher, enquêter, d'arroche d'arrache. Et dans ce contexte, du nom qui résiste à l'interprétation, j'ai pensé à un texte de Marcel Duchamp qui dit, et c'est un interview qu'il a donné à Pierre Cabanne, c'est parce que je n'ai pas trouvé de nom juif qui me plaise que je me suis transformé en Rose Selavi. Duchamp se transforme en femme, se travestit en femme à défaut de nom juif. Je crois que cela parle particulièrement à l'héroïne de votre roman, Anne Brochet, qui à la fin se transforme en homme, comme vous l'avez dit au début. Alors, je vois que ça vous laisse quoi ?
Non, pas du tout. Alors, je vais vous dire, j'ai réfléchi à quelque chose.
Oui.
C'est que j'ai appris très récemment, c'est-à-dire pas plus tard que hier, parce que moi, j'ai jamais revu mon livre, qu'il y avait un petit... que le Aïn, en fait, il avait mal été...
Oui, ils ont fait un tsadé à la place.
Voilà.
Oui.
Et alors, je me suis dit, voilà. Alors, moi, c'était tellement important pour moi ce que elle est une fixette sur le Aïn.
Oui.
Et dans l'impression, cette fixette de mon personnage n'a pas été respectée, puisque la lettre n'a pas été la bonne.
Oui.
Et je me dis, c'est ça l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que mon importance si forte n'a pas été... C'est pas du mépris, c'est-à-dire on ne comprend jamais assez l'importance de l'autre.
Oui.
C'est ça.
À la lettre près, parce que dans oui. Sylvia, il y a un Y. Sylvia qui peut vouloir dire, on peut l'écrire en hébreu, Samer Lamed Yud Vav E, c'est-à-dire qu'il y a carrément le tétragramme dans Sylvia. Mais ce Y, vous dites que ça ressemble à la lettre Aïn, ce qui est très 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 juste, et il y a une coquille dans votre livre, ouais. C'est la lettre Tsadé. Ouais. Mais en même temps, c'est une belle coquille, vous savez pourquoi ? Ouais. Parce que Tsadé, répétez de la racine, c'est tsats, qui veut dire regarder de manière très attentive à travers un petit trou. Et donc, il y a quand même quelque chose du regard extrêmement fort. C'est une coquille, on va dire, talmudique, extrêmement bien réussie. Et bien réussie. Mais en même temps, ça me rappelait aussi que Rabbi Meir disait « Le monde tient sur une lettre en plus, une lettre en moins dans la Torah, et le livre est inapte à la lecture. » Alors, cette angoisse du nom... Je me suis dit, vous savez qu'en hébreu, vous le dites très bien d'ailleurs dans ce livre, où il y a une leçon, il y a plein de mots d'hébreu. Il y a le mot ishon, il y a le mot kav, il y a le mot chidush, il y a le mot yetzerara, qui est d'ailleurs très important, puisque ce livre, c'est aussi la mise en scène de la possibilité du désir, le fait que l'homme n'existe qu'en maintenant son désir. Il y a des très très belles scènes sur cette question. Je me suis demandé de quelles sont vos sources. Est-ce qu'elles sont autobiographiques, littéraires, cinématographiques ou existentielles, Anne Brochet ?
Elles sont de toutes sortes.
J'ai pensé à une rencontre que vous avez peut-être faite il y a quelques années.
La première, eh bien, vous savez, ce Aïn, il date de 1989. C'est-à-dire, je travaillais sur un film qui s'appelle Tolérance, qui était réalisé par Pierre-Henri Salfati, qui est donc extrêmement érudit en matière de Talmud. Et moi, qui n'y connaissais absolument rien du tout, on passait... Donc, c'était la première fois que je faisais quelques Shabbats. J'ai dû en faire peut-être deux ou trois grands maximum sur ce tournage. On travaillait le dimanche. On ne travaillait pas le samedi. Et il parlait. Il avait un monde à lui tellement fort... Oui, exubérant d'intelligence. Et c'est lui qui m'a intriguée sur ce Aïn. Aïn. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce monde qui trimballe ? Ça a l'air tellement bien. Mais j'ai mis, on va dire, 20 ans à m'y intéresser, à m'en approcher, me donner l'autorisation.
Alors, en rencontrant Pierre-Henri Salfati, que je salue ici, un ami de longue date, bien que je ne le vois pas souvent. Ouais. Il y a un travail sur la langue, sur les mots, et vous le montrez très très bien dans votre livre. Et en voyant cette angoisse que vous avez par rapport à brocher comme le poisson, je me suis souvenu que en hébreu, les lettres ne s'écrivent que avec les consonnes. Mmh. Et donc brocher s'écrit en fait bet, resh, shin. Enfin, B-R-C-H-T, que tous les hébraïsants, et vous pourrez faire l'expérience, dès que vous leur montrez ces 1, 2, 3, 5 lettres, tous les hébraïsants identifient immédiatement comme Bereshit. Le célèbre au commencement Bereshit, Dieu créa le ciel et la terre. C'est donc un nom qui pose une origine, un fondement, un début, une alliance, puisque le mot peut se lire Berit Esh, c'est-à-dire l'alliance de feu qui rejoint la petite pupille de l'œil que vous citez dans votre roman, ce petit ishon, mais lu en anglais et en allemand, respectivement les mêmes lettres B, R, C, H, T. Si vous mettez les voyelles E à O, cela devient le mot berachot, qui signifie bénédiction au pluriel. Et donc brocher, lu de manière talmudique, aux éclats, si on peut dire, ça devient brocher ou les bénédictions d'un commencement du monde. Je ne sais pas si cela vous parle, mais en tout cas, je trouve que cela résonne bien, Anne Brochet.
que je vous écoutais et je me disais, je comprends, je me suis souvenue de la raison pour laquelle j'avais écrit ce roman.
Oui.
C'était pour faire, essayer de faire partager aussi, pour ceux qui ne le savaient pas encore, la poésie du Talmud. C'est-à-dire que ça a commencé avec Pierre-Henri et ce Haïn qui avait la forme d'un regard. J'ai dit, ah bon ? Et après, il y a eu comme ça une rétention, parce que c'est comme ça que je suis, d'années, de décennies, pour aller, pour retourner vers ce Haïn. Et pour retourner vers la poésie de cette
lettre. Alors, ce qui est beau, c'est que Haïn signifie à la fois, comme vous le rappelez, l'œil et la source. Donc, voilà, il y a un chemin qui retourne vers cette source, vers cette poésie de la langue hébraïque, cette poésie du Talmud. La semaine dernière, on recevait Gérard Garoust et il disait aussi combien cette poésie de la langue était quelque chose d'éminemment fécond pour l'image et qui permet ce jeu de va-et-vient entre l'image et le texte. Alors merci Anne Brochet pour ce moment partagé. Je rappelle le titre de votre roman, Le grain amer, paru aux éditions du Seuil, un roman beau, riche et dense, qui se lit et je pense doit se relire, car ce n'est peut-être que la seconde fois, que son parfum offre toutes les harmoniques. C'était un vrai plaisir en tout cas de vous recevoir dans Talmudique.
Merci beaucoup, moi aussi.
Je vous souhaite un très très bel été et de nouvelles aventures littéraires.
À vous tous aussi.
Merci encore. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, et on est bien heureux, Philippe Palares, à la réalisation, Dany Journeau. Vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster, sur le site de France Culture, Coltouve, Leïtraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.